sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Une émission de bidouilles sonores,
de bruits chelous,
de fonds thématiques
et de formes ludiques,
d'écriture plurielle.
D'écriture plurielle. Une émission qui fait
une
des
émission
nœuds,
qui fait des nœuds,
qui s'en mêle,
qui s'en mêle,
qui démêle,
qui démêle,
qui s'en mêle au gré du Mistral. Une émission de haute voltage, fréquence. Une émission de création sonore. Une heure de tout et de rien.
Tous les deuxièmes dimanches du mois.
De 20h à 21h.
Par des transpédéguines.
Ou des postes queer un peu timbrés. Sur Radio Galère. 88.4 FM
et en DAB+.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil.
Sur le fil. Salut! Bienvenue dans l'émission Sur le fil, le deuxième dimanche du mois sur Radio Galère. Ce mois-ci, l'émission est sur le thème des vagues. Alors on s'est demandé pourquoi, surtout dans quelle occurrence on utilise le mot vague dans le langage courant. Et ce qui nous est arrivé, un des premiers termes qui est venu à l'esprit, c'était le vague à l'âme. Pour parler d'un état de nostalgie et de tristesse. On est peut-être un peu nostalgique des vacances. On a du mal à prendre la rentrée, le tournant de la rentrée. Et puis, en réalité, quand on a pensé à ce thème d'émission, c'était les retrouvailles de l'équipe au mois de juin. Une de nos anciennes collègues nous avait rassemblés sur la plage des Prophètes. Et en regardant la mer, on s'était dit que le thème vague nous plairait pour une prochaine émission. Quand on s'est retrouvé donc pour préparer l'émission, on a beaucoup divagué, on a parlé des différentes vagues qu'on connaissait, de l'expression « briser la vague » qui a été utilisée par la Pride, par le centre LGBT il y a quelques mois. On a parlé de toutes les musiques qu'on connaissait qui parlaient de vagues, de toutes les autres réalités qui font penser aux vagues, les cheveux ondulés, les différents courants artistiques, on parle de nouvelles vagues dans le cinéma, les vagues politiques, les vagues médiatiques. Alors du coup, certaines d'entre elles, vous allez en entendre parler dans cette émission. Il y aura des musiques, des noises, lectures, des micro-trottoirs. On parlera de pas mal de vagues différentes. Je vais commencer par la lecture d'un bref extrait d'un premier roman, du roman de Nelly Slim, qui s'appelle « Entre ici et avant il y a la mer ». C'est un roman qui entremêle différents éléments, la vie de la narratrice en France, ses souvenirs de sa famille en Tunisie, et puis à cette narratrice qui est passionnée par la lecture d'une encyclopédie océanographique, et du coup elle compare pas mal de choses à cette lecture. En océanographie et en biologie marine, le ressac est un aller-retour violent des vagues, formant une déferlante inverse. Un reflux vers le large. Il intervient après avoir frappé un obstacle dur et peut déplacer les matériaux de haut en bas, entraînant un échange de sédiments entre les rivages. Le ressac crée du mouvement entre les rives. Les sédiments émergent en forme de souvenirs.
Des kilomètres de plage à la recherche de ce que la mer nous renvoie. L'infatigable collectionneur du reflux. L'infatigable collectionneur du reflux.
M'appelle moissonneur des plages, le pouvoir des plages, le penteur d'estran. C'est vrai que j'aime bien me promener sur l'estran parce que bon, l'estran c'est la bande de terrain laissée libre entre la marée haute et la marée basse. Et bon, c'est mon terrain de jeu. Quoi. C'est là où je vais ramasser sur les choses échouées par la mer.
Il faisait presque nuit
était parti dans la nuit te laisser enfermer à marée haute, à marée montante, dans la falaise, comme ça, t'étais extrêmement équipé, t'avais une lampe de mineur, une lampe torche. Et je t'ai imaginé après, je dis tiens Philippe, il est là, il est coincé contre la falaise, il éclaire comme ça l'écume des vagues qui risque de l'emporter. Et puis je t'imaginais en train de saisir comme ça au vol des objets comme ça, je trouvais ça assez.
Ouais, ça a assez fou. Il y a un petit peu de ça. Il y a des gens qui regardent la mer sans. Qui voient rien, quoi, qui voient simplement la vague qui vient s'échouer sur le bord de la plage. Quoi. Mais c'est vrai qu'en regardant la mer, à force de la regarder, on arrive à voir comment elle déplace les galets, comment elle ramène les choses qui flottent, où elle les ramène. La vague la plus forte, elle a beaucoup plus de chances d'emporter la plus grosse masse de galets. Donc, c'est la plus dangereuse, mais c'est celle-là la plus intéressante.
Ceux qui ont été pris par les vagues connaissent leur force terrible. Pendant des siècles, les hommes ont essayé de vaincre les vagues, mais ils n'ont jamais réussi. Elles restent invaincues et intouchables. Personne ne peut les forcer ou empêcher de venir. Elles viennent, simplement.
Vous êtes toujours dans Sur le fil, dans l'émission Vague, et on écoute un micro-trottoir qui divague, qui dérape sur un pavé, qui chavire dans des questions existentielles, qui s'égare dans les foules, qui s'envole avec les hirondelles.
On est le 10 septembre, ça y est, le jour est arrivé. On est le 10 septembre, ça y est, le jour est arrivé.
Une interview qui divague, du coup, sur les vagues sociales ou autres.
Ben on est le 10 septembre, manif, on bloque tout.
On est au lendemain du vote de non-confiance du gouvernement de Bayrou. Et il y a eu un appel à bloquer le pays bien avant cet événement. Quoi. Bon, bah là, on est au milieu de la manif, on est place d'Aix. J'ai l'impression que les gens se dispersent un peu ou alors s'attendent pour faire autre chose, en tout cas j'espère.
Oui, c'est un peu la fin de la manif officielle mais qui était déjà non officielle et les gens n'arrivent pas à se quitter, ont envie de bloquer quoi. Il y a ça dans l'air quoi.
Bah, vu que l'appel a été fait dans toute la journée, j'imagine que là il y a des gens ont pris leur journée pour imaginer faire des choses. Alors pourquoi pas circuler dans la ville ou bloquer quelque chose mais ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se discuter là, vu le nombre qu'on est. Parce qu'on est hyper nombreux. Et il y a une poubelle qui bloque l'avenue, qui monte vers la gare et qui est en train de flamber.
Oui, ça commence à sentir le feu. Toi, à quelle vague participes-tu aujourd'hui?
Voilà. Au reflux, je crois. Celui qui mousse, tu sais. Ça bouillonne. Ouais, celle-là, ouais. Celle qui est en train d'en avoir ras-le-bol.
Moi, j'aime bien plutôt dériver. un peu dans, tu te balades un peu sans savoir où tu vas et à te laisser porter un peu par le courant et par et le courant un peu d'une pensée. Moi je fais beaucoup ça en marchant, en baladant, de passer par un peu là où ça m'inspire, de prendre des chemins que je prends pas d'habitude, notamment des fois pour des trajets que je fais d'habitude. J'aime bien changer tout le temps de trajet.
Devant les finances publiques. À quelle vague participes-tu aujourd'hui ?
Bah, la vague de blocage.
La vague du 10 septembre, cette vague étrange et un peu nébuleuse.
Est-ce que vous avez l'impression de briser la vague ?
On brise le fonctionnement de l'économie aujourd'hui, oui.
J'ai l'impression qu'on surfe sur la vague du 10 septembre.
Le mot d'ordre de la Pride de juin à Marseille, c'était « brisons la vague ».
Brisons la vague ? Je sais pas, j'aurais envie de dire des vagues de haine, de... Non, là, ça me faisait penser à la flottille qui allait à Gaza. Enfin, il y en a eu d'autres, mais celle qui a été médiatisée, là. Ça me donnerait envie de penser à cette vague, de briser une vague pour aller vers soutenir des gens. Briser une vague qui empêche la solidarité, quoi.
Est-ce que tu brises la vague ?
J'ai tendance à me laisser aller avec la vague plutôt que de la briser, parce que c'est un peu violent. Mais j'essaye de pas m'écraser sur les vagues.
Mais qui va là ? Qui va là ? Tristesse dégage de là.
Et est-ce qu'il y a des vagues qui te font peur ?
Toutes les vagues me font peur, même celles que j'aime bien. Pour revenir sur les vagues dans la mer, dans l'océan, c'est que ce que je trouve agréable, c'est que à la fois c'est un mouvement qui est continu, qui est rassurant, mais en fait qui peut être méga dangereux. Et en fait, quand on est prise dans les vagues, des fois on peut couler et tout. Oui, des fois des mouvements hyper puissant qui nous dépasse, ça peut faire flipper parce que des fois c'est des mouvements qui sont bénéfiques et mais ça n'empêche pas de flipper, d'être pris dans ce truc et d'avoir besoin aussi des fois de ressentir son individualité et son choix. Et après il y a des vagues horribles, violentes dans lesquelles on a peur aussi, quoi.
La vague de fascisation fait très très peur en ce moment. Et elle fait peur parce qu'on dirait qu'elle pourrait presque se mélanger dans la vague de blocage.
C'est compliqué. Ça serait plutôt l'espèce de grosse houle, là. Tu sais, quand t'as le Mistral d'un côté et le courant de l'autre, là. Cette houle dégueulasse où tu sais pas trop comment prendre les vagues. Et tu sais que tu maîtrises rien. Et que tu vas vraiment être malade, quoi.
La vague bleu-blanc-rouge, là. Ouais. Celle-là, elle me fait un peu peur. Elle me fait un peu peur, surtout que, en fait, dans ces mouvements sociaux, il y a toujours quelque chose de compliqué, c'est-à-dire c'est quelque chose de populaire, mais comme l'objectif, il est tellement général que on se perd aussi dans qu'est-ce qu'on a envie de partager et avec les uns et les autres. Mais en même temps, comment on fait ? Je veux dire. Est-ce que c'est un endroit où se rencontrer ? J'en sais rien, tu vois. Mais moi, je suis pas sûre d'avoir envie de rencontrer des gens qui posent des têtes de cochon devant une mosquée. J'ai pas envie de rencontrer, comme là, il y avait dans la manif tout à l'heure, des gens avec des écussons, égalité et réconciliation avec Soral. Ils étaient deux, mais bon, c'est deux quand même, je les ai vus, tu vois. Enfin, ça existe dans mon imaginaire, en tout cas. Donc oui, c'est pas la masse, mais moi aussi, la question est personnelle. Ça me met un peu mal à l'aise, quoi.
Et toi, quelle vague globalement t'inspire ?
Les pins à la mer, beaucoup. Les vagues. C'est vraiment sur des trucs d'inspiration. D'être au bord de la mer et de regarder le. Enfin, plutôt l'océan et de regarder les vagues de l'océan, ça m'inspire. Et ça me. Ouais, ça me repose, ça me fait du bien. Et ouais.
Et toi, quelle vague t'inspire? C'est quoi celle qui te porte comme ça?
Le collectif. Celle du collectif, quoi. Celle qui s'accumule, celle qui est bien grosse, celle qui s'enrichit, celle qui va ouais, essayer d'aller plutôt vers de l'avant. Et en essayant de dépasser aussi certaines choses un peu qui peuvent nous traverser, de l'ordre de l'affect. Ou... En tout cas, moi j'essaye, enfin j'essaye parce que je suis hyper susceptible, du coup c'est compliqué. Mais oui, j'espère. C'est plutôt celle-là qui me porte, quoi. Celle qui va nous permettre ensemble de faire des choses et pas nous. Voilà, et qui va nous élever plus que nous retenir vers le bas. Parce que là, jusqu'à maintenant, on stagne. Même en mouvement social, le rapport à la consommation, les prix qui flambent, nos vies qui sont ultra contrôlées. Ça stagne, quoi. On subit plus qu'autre chose, quoi. J'ai envie qu'elle nous porte, cette vague, plutôt.
Et vous, quelle vague vous inspire?
Tsunami, mais je suis pas l'initiative.
Comment t'aimes divaguer?
Je vais faire mon intello de service, mais à la manière des surréalistes quand ils dérivent dans la ville, tu sais. Il y a un truc où ils se laissent porter par le chemin et en même temps ils savent pas vraiment pourquoi ils tournent, mais ils tournent quand même et ils se mettent un peu à regarder la ville où la circulation est possible de mille manières. Ils n'ont pas qu'un seul chemin, mais ils n'ont pas d'objectif non plus. Je sais pas, celle-ci elle me plaît, même si elle n'est pas constructive. Quoique, si, quand même un peu, parce que tu peux rencontrer des gens plus facilement.
Ouais, parce que la rencontre, moi je trouve ça constructif.
C'est clair.
Bon, pour la révolution, je sais pas, mais pour d'autres choses.
La quoi?
Je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste.
Et si on a entendu joyeux anniversaire au début du micro-trottoir, c'était parce que le 10 septembre, c'était l'anniversaire de notre camarade, l'auteur du micro-trottoir, et on profite de l'émission pour lui souhaiter un bon anniversaire, même s'il n'est pas avec nous.
Sur le fil. On va écouter une musique bientôt, une chanson de Klaus Cinto qui s'appelle « Les morts mortes ».
Sans elle,
chercher tout le temps la douleur accumulée, serrée entre les dents, et je marche à reculons.
C'est un morceau qu'on a choisi aussi parce que le clip est face aux vagues et qu'il est très beau. On vous invite à aller le regarder. Klaus Tinto, Les Mortes.
Sur le fil.
À celle qui rêvait d'aventure. À celui qui a jeté un dernier regard aux lumières de la côte. À celle qui aimait se promener. À celui qui buvait du thé tous les matins. À celle qui, le cœur gonflé d'espoir, à celui qui adorait dessiner, à celle qui a emmené un pendentif pour se donner du courage, à celui qui cherche une amie disparue, à celle qui écrit pour commémorer ses vies chères perdues, à celui qui hurle sa colère contre les frontières, à celle qui continue de lutter et de vivre pour que ces morts ne se répètent pas, à toutes celles et ceux qui laissent ce vide immense, on ne vous oublie pas.
Thank you.
la 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 la.
C'était une création sonore sous la vague.
On reprend un peu avec cet univers de fête, de teuf, ouais, avec un nouvel extrait du roman de Nelly Slim, Entre ici et avant, il y a la mer. Je reprends un petit extrait. La fête est toute pétée, dit Sally. D'abord, qui écoute encore la Macarena? Mais toi, tu danses comme si c'était le dernier jour. Tes bras qui se lèvent, on dirait des vagues sur le fond noir du ciel strié. Le stroboscope ne parvient pas à éclairer le manteau couleur cendre qui t'enserre. Tu te détaches, colossal. Sally me regarde d'un air ennuyé. On part ? Je la retiens. Attends-moi 30 secondes. Je voudrais aller lui poser une question. À qui ? Demande Sally, mais sa voix disparaît déjà au loin, tandis que je fends la houle à ta recherche. Plus je m'avance, plus les remous me projettent du côté opposé. Je nage à contre-courant, je nage en eau profonde. Au loin, Sally s'impatiente et trépigne. Je sens bien que je la retarde, mais tu continues de danser et je voudrais te rejoindre. L'air est moite, ou peut-être est-ce le petit cacheton pris plus tôt dans la soirée? L'eau se soulève et dans une brasse hallucinée, je dépasse celle qui fume clope sur clope d'un air blasé, celle qui piétine sur place au rythme de la musique, celle qui twerk, celle qui enchaîne les bouteilles de Heineken 33 centilitres. Tout le monde se déplace en groupe, se dévisage, fait des commentaires. Je vois Saïd gesticuler au loin. Nouveau soulèvement, nouvelle retombée. J'évite soigneusement de le croiser. Il est 5h du matin, bientôt le ciel va s'éclairer et Sally m'attend pour partir. Je devrais m'en aller, mais pas avant de t'avoir trouvé. Je tourne en vain dans les ondulations, parmi les regards vaguement hostiles, ennuyés. Au moment où je crois t'avoir perdu, prise dans les vagues, invisible dans la foule, je me retourne et tu es là. Tu attends pour boire un rhum gingembre. Maintenant que tu es devant moi, je ne sais plus quoi te dire. Je vois bien que ce n'est pas toi. Elle te ressemble et elle danse bien. Tellement bien qu'elle m'a rappelé toi. Tes cheveux bruns bouclent sur ses épaules. Ton nez arqué et ta présence sur son visage à elle. Sa détermination à se déhancher sur la Macarena... C'est la même que la tienne, ça m'enchante. Et c'est ça que je voudrais lui dire, tu m'enchantes. Avant de partir rejoindre Sally, que je vois lever les yeux au ciel. Et puis je voudrais ajouter, on se connaît, toi et moi. On s'est déjà aimés sur un autre continent. Pour toi, j'ai traversé un raz-de-marée. Mais j'aurais peur que tu trouves ça bête. Trop banal, trop cliché. Elle m'intimide, elle me sourit. Sa main se tend vers moi sans un mot, elle m'invite à danser. Je me sens gauche. Partout autour, les corps s'agitent. L'espace est parsemé d'éphémères ébullitions. Mes doigts, à moi, sont dépliés, cloués.
I'm the motherfucking rookie of the year. Mickey Blanco, Young Castro. Kill me. We on that chill tip real high. We feelin' real loose, real fly. We on that chill tip real high. We feelin' real loose, real fly.
Welcome to hell, bitches. This is Mickey Blanco. New world order, motherfucker, follow pronto. Get in line, nigga. Your soul is mine, nigga. You scaredy cat pussy, motherfuckers can't deliver. Maybe she born with it. Maybe it was Maybelline. All white.
white Blanco, give you heathen ass a christening. Niggas so greasy in the daylight, he glistening. Oh, this fag can rap, yeah, they saying it, they listening. Pissing in the wind at the 4 a.m. spot. Blazed off the indica, a bottle of Ciroc. A mouth full of pop, chugging in the payphone. When they handle local motherfuckers, y'all can go home. I'm your new Rufio, y'all ain't know. I pimp slap you bitch niggas with my left wrist, bro. What the fuck I gotta prove to a room full of dudes who ain't listening to my words, cause they staring at my shoes. We make love to the night in the back of the club, yeah, we feeling the vibe. Life slow, this shit feel crazy. Low key, loose niggas low. We getting wavy, low. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy.
We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly. We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly.
I bite the head off a heartbeat. Eat these bitches alive, no warning. I cry blood, tears, holy Mary, holy mother. Somebody get the shaman, motherfucker, run for cover. Blanca, 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 say it 3 times, Candyman. I'm coming out of the dark with red eyes and red hands. I scout these haters with a sickle, I'm a sling blade. I cut, dope bitch, I cut, dope bitches, keep away. Now many blame me for dummy, not funny. Now a bitch about to get men, they do wanna let me tell them. No, 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 I pray the destiny shine. Young hearts run free, young bloods run wild. Hey, green light with a mic in my hand. I go forward into battle with a dice in my hand. One chance, one woman, seeking the truth. One truth, veiled in the illusions of youth. We make love to the night in the back of the club, yeah, we feeling the vibe. Light slow, this shit feel crazy. Low key, loose niggas low. We getting wavy, low. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy.
I'm at the side with you niggas. Be that spit of shit. I'm flexing on my powers on nigga. These low class trashy hood rap broads ain't got what it takes. Put them back in training bras. No for motherfuckers. Birds of a feather. If you's a dick rider, you gon' dick ride forever. It's the local motherfuckers. Birds of a feather. If you's a dick rider, you gon' dick ride forever, nigga.
We make love to the night in the back of the club. Yeah, we feeling the vibe. Light slow. This shit feel crazy. Low key, loose niggas low. We getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy. We make love to the night in the back of the club, yeah, we feeling the vibe. Light slow, this shit feel crazy. Low key, loose niggas low. We getting wavy, low. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy.
Et on vient d'écouter Wavy de Mickey Blanco. Et on continue avec un extrait d'un livre qui s'appelle Papillon. C'est un livre de Henri Charrière. C'est un récit d'évasion. En fait, le narrateur, la personne qui raconte l'histoire, qui parle dans l'histoire, raconte comment il s'est évadé de toutes les prisons, les bagnes, les camps où il était enfermé. C'est un récit qui se passe dans les années 40, qui a été publié dans les 60, et qui se présente comme un récit autobiographique. Probablement que c'est un mélange de plusieurs expériences de plusieurs personnes. C'est pas sûr que ce soit la même personne qui ait tout vécu. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il se retrouve enfermé quelque part, il parvient à s'en évader, à s'en sortir. Le livre, moi, je trouve que l'extrait est intéressant pour les vagues. Je le défendrai pas dans son entièreté. Je l'avais lu il y a quelques temps. Là, en relisant, je pense que le personnage, il brille pas de tout point de vue. Et je pense qu'il y a en tout cas, certains partie des dialogues qui ont l'air vraiment racistes et sexistes. Donc c'est pas pour présenter et défendre le livre, mais c'est un extrait dans lequel il parle des vagues et dans lequel il nous parle aussi de comment il s'évane du bagne qui est sur l'île du Diable. L'île du Diable, c'est au large de Kourou en Guyane. Il y a 3 îles qui sont l'une à côté de l'autre, le Diable, l'île Royale et puis une 3e. C'est l'île aussi où a été déporté Dreyfus à la fin du 19e siècle. Et donc le personnage qui parle, il se trouve sur le banc de Dreyfus, il l'appelle comme ça, c'est au nord de l'île, face au large, en haut d'une falaise de 40 mètres. Ce banc où Dreyfus, condamné innocent, a trouvé le courage de vivre quand même, doit me servir à quelque chose. Ne pas m'avouer vaincu, tenter une autre cavale. Oui, cette pierre polie, lisse, surplombant cet abîme de rochers, où les vagues frappent rageusement sans arrêt, doit être pour moi un soutien et un exemple. Dreyfus ne s'est jamais laissé abattre et toujours jusqu'au bout, il a lutté pour sa réhabilitation. C'est vrai qu'il a vu Émile Zola avec son fameux j'accuse pour le défendre. Toutefois, s'il n'avait pas été un homme bien trempé, devant tant d'injustices, il se serait certainement jeté dans le gouffre de ce même banc. Il a tenu le coup, je ne dois pas être moins que lui, et je dois abandonner l'idée de faire une nouvelle cavale avec comme devise « vaincre ou mourir ». C'est le mot « mourir » que je dois abandonner, pour ne penser seulement que je vais vaincre et être libre. Dans les longues heures que je passe assis sur le banc de Dreyfus, mon cerveau vagabonde, rêve du passé et bâtit en rose l'avenir. Mes yeux sont éblouis, bien souvent par trop de lumière, par les reflets platinés de la crête des vagues. À force de regarder sans le voir vraiment, cette mer, je sais tous les caprices possibles et imaginables des vagues qui suivent le vent. La mer, inexorablement, sans jamais se fatiguer, attaque les rochers les plus avancés de l'île. Elle les fouille, les décortique. Elle a l'air de dire au diable « Va-t'en, il faut que tu disparaisses. Tu me gênes quand je m'élance vers la grande terre, tu me barres le chemin. C'est pour ça que chaque jour sans arrêt, je t'enlève un petit peu de toi. » Quand c'est la tempête, la mer s'en donne à cœur joie, et non seulement elle fonce et ratisse en se retirant ce qu'elle a pu détruire, mais encore elle cherche et recherche à envoyer de l'eau dans tous les coins et recoins pour, petit à petit, miner par en dessous ces géants de rochers qui ont l'air de lui dire « Ici, on ne passe pas. » C'est alors que je découvre une chose très importante. Juste en bas du banc de Dreyfus, venant face à d'immenses rochers en dos d'âne, les vagues attaquent, se cassent et se retirent avec violence. Leurs tonnes d'eau ne peuvent pas s'éparpiller parce qu'elles sont coincées par ces deux rochers qui forment un fer à cheval d'environ 5 à 6 mètres de large. Après, c'est la falaise, donc l'eau de la vague n'a d'autre sortie qu'en retournant à la mer. C'est très important car si au moment où la vague casse et se précipite dans le gouffre, je me jette du rocher avec un sac de coco, plongeant directement dans elle, sans l'ombre d'un doute, elle m'emportera avec elle en se retirant. Je sais où prendre plusieurs sacs de jute car à la pencherie, on a autant qu'on veut pour ramasser des cocos. Première chose à faire, un essai. Quand la lune est pleine, les marées sont plus hautes, et donc les vagues plus fortes. Je vais attendre la pleine lune. Un sac de jute bien cousu, rempli de cocos secs, avec leur enveloppe de fibres, et bien dissimulé dans une espèce de grotte. Dans un autre sac, qui est lié au sac de cocos, j'ai mis une pierre qui doit peser de 35 à 40 kg, et comme je vais partir avec deux sacs au lieu d'un, et que je pèse 70 kg, les proportions sont gardées. Je suis très excité par cette expérience. Ce côté de l'île est tabou. Jamais personne ne pourrait imaginer que quelqu'un va choisir l'endroit le plus battu par les lames, donc le plus dangereux, pour s'évader. Pourtant, c'est le seul endroit où si j'arrive à me détacher de la côte, je serai emporté vers le large et ne pourrai en aucune manière aller me fracasser sur l'île royale. C'est de là, et pas d'ailleurs, que je dois partir. Le sac de coco et la pierre sont plus lourds et pas faciles à porter. Je n'ai pas pu les hisser sur le rocher. Le rocher est gluant et toujours mouillé par les vagues. Chang, à qui j'ai parlé, viendra m'aider. La pleine lune éclaire la scène comme en plein jour. Le vacarme qui font les vagues m'étourdit. Chang me dit « Tu es prêt, papillon ? Envoie la vague après celle-là. » Et la vague de près de 5 mètres de haut, debout, se précipite comme une folle sur le rocher. Elle casse en bas de nous, mais le choc est si violent que la crête passe par-dessus le rocher et nous mouille entièrement. Ça n'empêche pas que nous jetons le sac à la seconde même où son remous se forme avant de se retirer. Emporté comme une paille, le sac prend la mer. Ça y est, Chang, c'est bon. Attends, pour voir si le sac ne revient pas. À peine 5 minutes après, consterné, je vois mon sac arriver, perché sur la crête d'une vague de fond immense, haute de plus de 7 à 8 mètres. La vague soulève comme à rien ce sac de coco et sa pierre, elle le porte sur sa crête, un peu avant l'écume, et avec une force inouïe, le renvoie d'où il est parti, un peu à gauche, et il se fracasse sur le rocher d'en face. Le sac s'ouvre, les cocos s'éparpillent, et la pierre roule au fond du gouffre. Trempé jusqu'aux os, car elle nous a entièrement mouillés et virtuellement balayés, heureusement du côté terre, écorchés et meurtris, Chang et moi, sans un autre regard de cette mer, nous nous éloignons au plus vite possible de cet endroit maudit. C'est pas bon, papillon, c'est pas bon cette idée de cavale du diable. C'est mieux du côté de l'île royale. Du côté sud, tu peux partir mieux qu'ici. Oui, mais à Royal, l'évasion serait découverte en 2 heures au maximum. Le sac de coco n'ayant d'autre impulsion que la vague, je peux être pris en tenaille par les 3 canaux de l'île. Tandis qu'ici, d'abord, il n'y a pas de canaux. Deuxièmement, sûr que j'ai toute la nuit devant moi avant qu'on s'aperçoive que de la cavale. Ensuite, on peut croire que je me suis noyé en pêchant. Au diable, il n'y a pas de téléphone. Si je pars par gros temps, il n'y a pas de chaloupe capable de venir au diable. Alors c'est ici que je dois partir. Mais comment ? Un soleil de plomb à midi. Un soleil tropical qui fait comme bouillir le cerveau dans le crâne. Un soleil qui calcine toute plante qui a pu naître mais n'a pas pu grandir au point d'être assez forte pour pouvoir l'affronter. Un soleil qui fait s'évaporer en quelques heures chaque flaque d'eau de mer, pas trop profonde, et laisse une pellicule blanche de sel. Un soleil qui fait danser l'air. Oui, l'air bouge littéralement, il bouge devant mes yeux, et la réverbération de sa lumière sur la mer me brûle les pupilles. Pourtant, à nouveau, sur le banc de Dreyfus, tout ça ne m'empêche pas d'étudier la mer, et c'est alors que je m'aperçois que je suis un vrai con. La lame de fond, qui deux fois plus haute que toutes les autres vagues, m'a rejeté mon sac sur les rochers, le pulvérisant littéralement, cette lame se répète seulement toutes les sept vagues. De midi, au coucher du soleil, je regardais si c'était automatique, s'il n'y avait pas une saute d'humeur, donc de déréglage dans la périodicité et la forme de cette vague gigantesque. Et non, pas une fois, la lame de fond n'est venue avant ou après. Six vagues de 6 mètres environ, puis se formant à plus de 300 mètres de la côte, la lame de fond. Elle arrive droit comme un I. Au fur et à mesure qu'elle approche, elle augmente de volume et de hauteur. Presque pas d'écume à sa crête, au contraire des six autres. Très peu. Elle a un bruit particulier, comme un tonnerre, qui roule en s'éloignant au loin. Quand elle casse sur les deux rochers et se précipite dans le passage entre les deux, et qu'elle vient choquer contre la falaise, sa masse d'eau étant bien plus grande que celle des autres vagues, elle s'étouffe, tourne plusieurs fois dans la cavité. Et il faut 10 à 15 secondes pour que ces remous, ces espèces de tourbillons, retrouvent la sortie et s'en aillent, arrachant et roulant avec eux de grosses pierres qui ne font qu'aller et venir avec un tel grondement qu'on dirait des centaines de tombereaux de pierres qu'on décharge brutalement. J'ai mis une dizaine de cocos dans le même sac. Je fous une pierre de 20 kg à peu près et à peine la vague de fond casse, je jette le sac dedans. Je ne peux pas le suivre des yeux car il y a trop d'écume blanche dans le gouffre, mais j'ai le temps de l'apercevoir une seconde quand l'eau, comme sucée, se précipite vers la mer. Le sac n'est pas revenu. Les six autres vagues n'avaient pas assez de force pour rejeter à la côte, et quand à la septième s'est formée, à près de 300 mètres, le sac avait déjà dû passer le point où elle naît, car je ne l'ai plus revu. Gonflé de joie et d'espoir, je marche vers le camp. Ça y est, j'ai trouvé une mise à l'eau parfaite.
Sur le fil.
Rois hawaïens. À l'époque, ils servaient justement à désigner le prétendant au trône, le plus valeureux, parce que le mieux capable de chevaucher les monstres des îles.
En 1957 avait pour la première fois parlé de nouvelle vague. Comment vous représentiez-vous cette génération, cette jeunesse des années 50?
J'avais été frappée par le fait qu'ils étaient frileux, essentiellement, ce qui est assez normal d'ailleurs pour des enfants qui avaient quand même été, pour des jeunes gens qui avaient quand même été dans leur enfance très bercés par la guerre. Ils avaient le cœur frileux. Et d'autre part, ils étaient très très privés encore matériellement.
Comment expliquez-vous alors que la critique se soit si souvent acharnée contre la nouvelle vague?
Parce que ça a été véritablement un choc. D'un coup de souffle, tout d'un coup, c'était autre chose. Il s'est passé tout d'un coup quelque chose d'autre aussi.
Allez, ramez, poussez. Regardez droit devant vous, la vague arrive derrière vous. Alors, regardez devant vous et allez-y. Ramez. La vague arrive derrière vous. Alors, regardez devant vous. La vague arrive derrière vous. Alors, regardez devant vous.
La vague
arrive derrière vous. Alors, regardez devant vous et allez-y. Ramez. en levant la tête, regardez devant vous, j'ai peur, allons-y. Regardez, ramez fort. Alors, encore, 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 regardez devant vous. Alors, un, la main, les mains sur la planche. Deux, un pied. Trois, l'autre pied. Et quatre, vous redressez tout doucement, regardez devant vous. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, on va faire la même chose dans l'autre. Alors, prenez vos planches. Allez, t'es content? On va s'amuser.
C'est un phénomène ancien et très redouté. Un violent séisme sous-marin provoque une série de vagues gigantesques pouvant progresser à 700 km/h. On redoute désormais des répliques qui pourraient intervenir dans les jours ou les semaines à venir.
Un mur d'eau qui ravage tout sur son passage, voici ce qu'est un tsunami. Le phénomène survient lorsqu'un séisme se déclenche en mer. D'une violence rare, 9 sur l'échelle de Richter. L'énergie libérée est inimaginable et crée une onde sous-marine qui va se répandre et s'amplifier en arrivant sur les côtes. La vague peut atteindre plus de 15 mètres.
Tant que le fond est très profond, la vague ne sent pas le fond. Et donc à la surface, vous voyez quelque chose qui n'est pas très impressionnant. Dès que la vague arrive dans une région peu profonde, elle sent le fond, l'eau se soulève et il se forme une déferlante, mais simplement à une échelle colossale.
Une fois lancée, l'onde se répand à près de 800 km/h. Le tsunami a parcouru des milliers de kilomètres avant d'atteindre certaines côtes et les répliques meurtrières pourront survenir pendant plusieurs semaines.
Suicidaire de choisir les zones où l'océan paraît calme. Dans 98% des cas de noyade, la victime est du sexe masculin, âgée de 20 à 40 ans, et c'est un bon nageur. Une carte d'identité virile qui laisse croire que l'on peut se baigner où l'on veut et quand on veut.
Imprudence dictée par de l'ignorance, en fait.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that blows.
Il faut maintenant choisir une vague et la prendre.
C'est toujours sur le fil, ce soir une émission sur les vagues.
Vous venez d'écouter une noise de Minuit Sosie avec des samples de Attic, Blonde Redhead, Beck Sizik, Sis, The Beach Boys, Philippe Danger, Agnès Varda, Françoise Giroud, et bien d'autres.
Je vous propose d'écouter un dernier extrait du roman « Entre ici et avant il y a la mer » de Neil Slim. Saïd ramène avec lui l'odeur des briques à l'œuf, le crachotement de l'huile qui frit, un refrain fredonné sans y penser. Sally est ravie de découvrir les particularités d'un ailleurs dont elle ne connaît rien. Je me sens timide quand je laisse sortir de ma bouche un mot en arabe, quand je lui raconte quelque chose de ma vie d'avant. Mais Saïd rend tout plus simple, avec son grand rire généreux. Un jour, elle nous invite dans la cuisine de son studio. Elle, dont le régime alimentaire est principalement constitué de kebab et panini tomate mozza, suit avec attention les recettes que Saïd lui détaille. Elle demande le nom des épices, les note scrupuleusement. Je sais qu'elle le fait pour moi. Assise à la table, je les observe tous les deux penchés sur la grande casserole. J'observe leur légèreté, leur émerveillement joyeux. La houle est tranquille. Les crêtes s'arrondissent sans déferler. C'est nouveau et vertigineux. L'encyclopédie dit « Mouvement d'ondulation de la surface de la mer, sans bruit. » Niché près de la fenêtre, je contemple l'étendue de ciel ponctuée de petits nuages rebondis. Je repense à ma grand-mère. Mima, aux gestes amples et aux djebas colorés. Mima que rien ne pouvait déconcentrer quand elle était au fourneau. Ses recettes, je peine à me souvenir. Pourtant, en fidèle assistante, je suivais à la lettre tous les ordres qu'elle me donnait. Quand, fatiguée, elle ne pouvait plus rester debout assez longtemps pour surveiller les ragoûts qui mijotaient. Mima est partie il y a des années maintenant. Partie l'exigence droite et la main chaude sur mon front. Partie son « il faut rester digne, ma fille ». La dignité, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Partie avec elle, mon goût, pour les longues heures passées dans la cuisine.
C'était Sur le fil, spécial vague pour cette émission de rentrée 2025. Continuons à briser les vagues cérélates, à faire grossir la vague du 10 septembre. Vous pouvez réécouter les 6 heures de Libre Antenne qui ont été animées le 10 septembre sur les ondes de Radio Galère. C'était tout un tas de paroles joyeuses, en colère et solidaires, en direct des blocages, de la manif, du studio. Voilà, ça faisait du bien d'entendre tout ça, ça a donné beaucoup de force. On est là, sous la vague, sur la vague, meute de sirènes, surfeuses et d'éther. Pour l'heure, on rend l'antenne, mais on perd pas le fil. À dans un mois sur Radio Galère.